Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 16 avril 2024. Une délégation de la CEDEAO au Togo pour aider à apaiser les vives tensions politiques avant les législatives. 6 pays africains dont la Tanzanie et le Zimbabwe retirent de la vente un sirop contre la toux de Johnson & Johnson contaminé. Soudan, plus de 2 milliards d'euros d'aide pour le Soudan ont été récoltés à la conférence de Paris.
Les États-Unis se sont engagés à fournir 100 millions de dollars supplémentaires. C'est une aide alimentaire d'urgence, un soutien nutritionnel et autre forme d'aide vitale.
William Juan Schmontzis, l'un des porte-parole du département d'État, va nous expliquer dans la partie magazine le sens de la contribution des États-Unis. 9 corps de migrants originaires de Mauritanie et du Mali ont été retrouvés sur un bateau échoué sur la côte du Brésil. Israël a promis une riposte à l'attaque lancée par l'Iran malgré les appels à éviter une escalade au Moyen-Orient. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Une délégation diplomatique de la CEDEAO séjourne en ce moment au Togo, alors que le pays connaît de fortes tensions politiques après l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars par les députés, a annoncé l'organisation ouest-africaine. Les précisions de John Lydon.
L'une des missions de cette délégation est d'interagir avec les principales parties prenantes sur les derniers développements dans le pays avant les élections législatives et régionales du 29 avril 2024, a indiqué la CEDEAO dans un communiqué. Composée de 7 membres, cette mission exploratoire est dirigée par Maman Sambo Sidikou, ancien chef de la mission de l'Union africaine au Mali et au Sahel. Elle séjournera dans le pays jusqu'au 20 avril. Le projet de nouvelle constitution qui ferait passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire agite le pays depuis son adoption en première lecture par les députés fin mars. L'opposition togolaise y voit un moyen pour le président Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. La mission soumettra son rapport et ses recommandations au président de la commission de la CEDEAO.
Au Mozambique, au moins 8 membres d'une même famille sont morts dans le naufrage d'un bateau de pêche sur le fleuve Zambèze. 2 personnes ont survécu et 2 autres sont portées disparues. Les autorités de régulation pharmaceutique en Tanzanie, au Rwanda et au Zimbabwe ont décidé de rappeler le sirop contre la toux pour enfants, le Benling Pediatric, produit par Johnson & Johnson. Cette décision fait suite à la découverte de niveaux élevés de diéthylène glycol dans le produit, substance très toxique liée à plusieurs décès d'enfants dans certains pays africains. Nani Talani.
Il s'agit d'un exercice de surveillance pour garantir que les médicaments concernés sont retirés du marché, a déclaré à Reuters Gaudencia Simwaza, la porte-parole de l'autorité des médicaments de la Tanzanie, où l'opération de rappel du sirop Benilin Pediatrica a commencé le 12 avril, après la divulgation des résultats des tests réalisés par le Nigeria. Au Kenya, un porte-parole du régulateur pharmaceutique a déclaré que les résultats des tests sur le sirop impliqué seront probablement prêts mercredi. Au Rwanda, l'autorité des aliments et des médicaments assure qu'aucun effet indésirable n'a été rapporté jusqu'à présent, mais elle maintient le rappel par mesure de précaution. Le Zimbabwe, qui s'inquiète d'une possible entrée illégale du produit sur le marché, prévoit de renforcer les inspections pour contrer ce risque. Les actions de ces pays s'inscrivent dans la lignée des rappels déjà effectués par le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud concernant ce même lot de sirop utilisé pour traiter diverses affections chez les enfants. Des tests en laboratoire effectués au Nigeria ont révélé un niveau élevé de diéthylène glycol qui a été associé à la mort de dizaines d'enfants au Cameroun, en Gambie et en Ouzbékistan depuis 2022. Le diéthylène glycol peut aussi entraîner une insuffisance rénale aiguë.
À Mayotte, un an après l'intervention controversée Wambushu, une nouvelle opération de lutte contre l'insécurité, l'habitat indigne et l'immigration irrégulière dénommé Mayotte Place Nette, a débuté ce mardi sur l'archipel français de l'océan Indien, impliquant 1700 gendarmes et policiers pour 11 semaines sur le terrain. La première action de Mayotte Place Nette devait consister ce matin à la destruction de logements illégaux à Doujani, un quartier du sud de Mamoudzou, pour laquelle 400 policiers et gendarmes sont mobilisés. La conférence nationale de réconciliation interlibyenne, prévue le 28 avril, a été reportée à une date indéterminée, a annoncé aujourd'hui l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Batili, dénonçant le comportement égoïste des leaders libyens devant le Conseil de sécurité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La police brésilienne, enquêtant sur la macabre découverte d'un bateau rempli de cadavres, indique qu'il serait ceux de migrants africains venus du Mali et de la Mauritanie. Jacques Aristide.
Ce sont des pêcheurs qui ont repéré au cours du week-end écoulé l'embarcation à la dérive au large de l'état côtier du Pará dans le nord du Brésil. La police fédérale brésilienne a déclaré dans un communiqué hier soir avoir récupéré 9 corps. Les documents et objets trouvés à proximité des dépouilles indiquent que les victimes étaient des migrants originaires du continent africain, précisément de la Mauritanie et du Mali, ajoute le communiqué. Toujours d'après la police brésilienne, d'autres nationalités pourraient figurer parmi les victimes. Le bateau, d'environ 12 mètres de long et à la peinture blanche et bleue délavée, a les mêmes caractéristiques que les pirogues de pêche mauritaniennes, fréquemment utilisées par les migrants d'Afrique de l'Ouest, mettant le cap sur l'archipel espagnol des Canaries, ce qui sous-entend que le Brésil n'était probablement pas leur destination. Les traversées se multiplient dans l'Atlantique entre la côte africaine et les îles Canaries, alors que cette route vers l'Europe est vue comme étant l'une des plus dangereuses au monde. Les embarcations qui ratent leur destination peuvent dériver pendant des mois. Les migrants à bord meurent souvent de faim et de déshydratation. D'autres se jettent dans l'océan en désespoir de cause.
Israël continue d'imposer des restrictions illégales à l'aide humanitaire destinée à Gaza, a déclaré aujourd'hui le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Lundi, le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a assuré que l'aide humanitaire acheminée vers la bande de Gaza avait considérablement augmenté ces derniers jours. Au début du mois, le président Joe Biden a menacé de conditionner le soutien à l'offensive israélienne contre Gaza à la prise de mesures concrètes pour protéger les travailleurs humanitaires et les civils. L'armée israélienne a prévenu ce mardi que l'Iran ne sortirait pas indemne de l'attaque sans précédent qu'il a lancée samedi contre Israël en riposte à une frappe sur son consulat à Damas. Les précisions avec Mohamed Moufa.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à une telle agression. L'Iran ne sortira pas indemne de son attaque, a déclaré le porte-parole de l'armée Daniel Hagari lors d'une visite organisée pour les médias sur une base dans le sud d'Israël. Tirer 110 missiles directement sur Israël ne restera pas impuni. Nous répondrons au moment, au lieu et à la manière que nous choisirons, a-t-il ajouté. Un commandant du Hezbollah, Ismaël Youssef Baz, a été tué ce mardi dans le sud du Liban, selon l'armée israélienne, qui a mené une série de frappes. La puissante formation soutenue par l'Iran, revendiquant de son côté des attaques sur le nord d'Israël. Selon l'armée israélienne, il a participé à la planification des tirs de roquettes et de missiles anti-chars en direction d'Israël. Le Hezbollah s'est borné à annoncer la mort d'Ismaël Youssef Baz sans autre précision. Le président iranien Ebrahim Raisi a lui prévenu ce mardi que la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquerait, je cite, « une réponse sévère, étendue et douloureuse de son pays ».
Deuxième jour ce mardi du procès au pénal de Donald Trump à New York, l'ancien président se plaint d'être empêché de faire campagne pendant que son rival à l'élection présidentielle de novembre, Joe Biden, est sur le terrain. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump doit pour l'heure assister en silence au long et fastidieux processus de sélection des 12 jurés qui devront le déclarer à l'unanimité non coupable ou coupable pendant que son rival Joe Biden laboure le terrain ce mardi avec une visite prévue dans sa ville natale de Scranton. Scranton en Pennsylvanie, un État disputé et crucial pour l'élection de novembre. Et puis la Cour suprême des États-Unis examine ce mardi un recours contre l'utilisation d'une loi ayant servi à porter l'une des accusations contre l'ex-président Donald Trump et des centaines de ses partisans qui ont participé à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021. Il s'agit du complot contre les institutions américaines, de complot en vue d'entraver une procédure officielle et d'atteinte au droit de vote des Américains. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Dani Talani.
Le Togo vient de mettre en place un comité technique pour surveiller de près le marquage des produits afin de garantir la qualité des produits de consommation importés dans le pays. Ce comité, qui luttera aussi contre les fausses déclarations et la concurrence déloyale, incitera les acteurs économiques à se conformer aux normes établies. Il est composé d'experts de l'Office togolais des recettes, des impôts et du ministère en charge du commerce. Le réseau électrique du Nigeria s'est effondré pour la 5e fois cette année, aux premières heures de lundi, à environ 50 MW contre 4020 MW la veille, selon les données nationales sur l'approvisionnement. La compagnie qui supervise le réseau n'a pas encore indiqué la cause de ce dernier arrêt quasi complet de la fourniture d'électricité. Cet effondrement intervient après que le régulateur nigérian a augmenté les tarifs pour les consommateurs les plus riches de 230% il y a seulement 2 semaines et alors que le gouvernement tente de réduire les 2,6 milliards de dollars de subventions accordées au secteur. Pour terminer, le Zimbabwe est en train d'importer du maïs du Brésil après des prévisions d'une forte baisse de la production provoquée par le phénomène El Niño. Cette année, le Zimbabwe espère récolter 870 000 tonnes de maïs, soit environ 60% de moins que l'an dernier, face à un besoin annuel de 2,2 millions de tonnes pour la consommation humaine.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le Maroc écrase la Zambie, se qualifie pour les demi-finales de la CAN de futsal qui l'accueille.
Oui, les Lions de l'Atlas ont écrasé les Chipolo Polo 13-0 et arrachent leur 3e victoire en autant de matchs de poule. Les double tenants du titre finissent premier de leur groupe A devant l'Angola qui a disposé du Ghana 11-3. Les Angolais accompagnent ainsi les Marocains en demi-finale où ils vont affronter les deux premiers de la poule B. Dans les derniers matchs se jouent ce soir deux rencontres à la même heure, 20h temps universel dans la poule B, Mauritanie-Égypte et Libye-Namibie. Sur place à Rabat au Maroc, notre correspondant Amin Birouk.
Logiquement, la Libye devrait composter son ticket lors d'un dernier affrontement contre la sélection namibienne. La Libye qui s'est accrochée, qui a eu une rencontre très compliquée face à la Mauritanie. La Mauritanie qui a vendu très chèrement sa peau, qui ne s'est inclinée que sur le score de 5 buts à 4. Les Mauritaniens d'ailleurs, même s'ils devaient quitter la compétition au terme de leur troisième et dernière sortie face à l'Égypte, devraient le faire la tête haute. A priori, on devrait retrouver les 4 demi finaliste de la précédente édition à Lyons, c'est-à-dire Maroc-Angola, Égypte-Libye, pour 3 places à prendre pour la prochaine Coupe du Monde et surtout voir qui pourrait succéder au Maroc.
Match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Au pied du mur, après sa défaite au Parc des Princes à l'aller 3-2, le PSG veut solder définitivement ses comptes avec le Barça. La remontada de 2017, alors que les Blaugrana étaient dirigés par Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG, hante encore les esprits parisiens. Le vainqueur de cette affiche va affronter en demi-finale celui du match entre l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Les Colchoneros se sont imposés à l'aller 2-1. Les Allemands de leur côté ont perdu leur arme offensive numéro 1, l'Ivoirien Sébastien Haller, et forfait pour ce match.
Une nouvelle Dream Team américaine de basketball attendue aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Aux côtés de la superstar des Lakers, LeBron James, on retrouve le MVP 2023 en la personne du pivot de Philadelphie, Joel Embiid, récemment naturalisé. On note aussi la présence de l'arrière des Warriors, Stephen Curry, qui va participer à son premier tournoi olympique. Ils vont retrouver l'ailier du Phoenix, Kevin Durant, présent aux Jeux sans discontinuer depuis 2012, l'intérieur des Lakers, Anthony Davis, et celui de Miami, Bam Adebayo, les deux joueurs de Boston, Jason Tatum et Jrue Holiday. Le coéquipier de Durant à Phoenix, Devin Booker, et les jeunes Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, seuls rescapés de l'équipe du Mondial 2023, la 12e et dernière place de la sélection n'a pas encore été attribuée. Et selon The Athletics, elle pourrait revenir à l'ailier des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard. Cette Dream Team sera conduite par le coach des Golden State Warriors, Steve Kerr. Les Américains veulent conserver le titre olympique qui ne leur a pas échappé depuis leur médaille de bronze en 2004 à Athènes, où l'Argentine avait été sacrée.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le Soudan est déchiré depuis un an par une guerre meurtrière entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Abdan Daglo. Pour comprendre les actions entreprises par la communauté internationale, notamment les États-Unis pour secourir des millions de civils pris au piège des affrontements, Eric Manirakiza a joint William Johan Sponsies, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Ça fait un an qu'une guerre civile totale s'est éclatée au Soudan. C'est une lutte de pouvoir entre deux généraux qui a tué déjà des milliers de civils, déplacé 8 millions de personnes et mené encore davantage de personnes au bord de la famine. En fait, c'est la plus grande catastrophe humanitaire en cours sur la planète. 25 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Bien sûr, il y a des pénuries de produits, de services et de nourriture partout au Soudan. Hier à Paris, à la conférence internationale humanitaire sur le Soudan, les États-Unis se sont engagés à fournir 100 millions de dollars supplémentaires. C'est une aide alimentaire d'urgence, un soutien nutritionnel et autre forme d'aide vitale. Cette annonce porte le total de l'aide humanitaire américaine à 1 milliard de dollars et les États-Unis restent le plus grand donateur en réponse au Soudan et à ses pays voisins. C'est une aide qui sert à fournir des services médicaux, d'assainissement, de l'aide humanitaire et aide aux réfugiés dans les pays voisins suite au conflit qui se déroule au Soudan.
Monsieur Schmonsis, existe-t-il des craintes quant à une escalade de la violence dans la Corne de l'Afrique?
Il y a des craintes d'escalade dans la Corne de l'Afrique. Les États-Unis ont eu de nombreuses discussions avec les pays de la région. Nous sommes préoccupés par l'impact régional et par le fait que la guerre est alimentée par des soutiens extérieurs. Et aussi nos inquiétudes concernant le soutien iranien au SAF. La guerre risque de déstabiliser toute la région. Le conflit fait signe maintenant d'impliquer les tribus et les pays voisins qui ont essayé de rester neutres, qui ont essayé d'aider dans la situation au Soudan.
Alors, comment devrait-on agir contre les acteurs accusés de soutenir les parties belligérantes?
Un certain nombre de pays tentent de faire pression en faveur d'une solution diplomatique. Le processus de Jeddah, par exemple, a réuni un certain nombre de pays autour de la table et l'Arabie Saoudite s'est engagée à accueillir un nouveau cycle de négociations. Les États-Unis sont activement engagés dans ce processus, en particulier un nouvel envoyé spécial pour le Soudan, Tom Perriello, s'est rendu dans la région le mois dernier. Les efforts diplomatiques se sont intensifiés et les États-Unis tenteront d'utiliser tous les leviers dont ils disposent pour construire la volonté politique pour mettre fin à cette guerre. Notre envoyé spécial et l'envoyé spécial des Nations Unies, Ramtin Lamamra, vise à renforcer les efforts, à emmener toutes les parties à la table pour des pourparlers de paix formels.
William Johan Sponsies, porte-parole de langue française du département d'État. Une vente aux enchères de livres ayant appartenu à l'ancien président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, prévue ce mardi en France, a été suspendue en raison de négociations avec le Sénégal. Dakar envisage d'acquérir l'ensemble de la bibliothèque selon les organisateurs. La bibliothèque mise aux enchères est constituée de 343 volumes avec chacun la dédicace de leur auteur. Le directeur du patrimoine culturel sénégalais, Oumar Abadiane, soutient que les nouvelles autorités sénégalaises s'étaient saisies de l'affaire. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Dakar au Sénégal, Amadou Lamine Sall, poète et écrivain.
Il y a des poètes d'Afrique, des poètes de la diaspora comme M. Césaire, il y a des poètes français comme Prévert, il y a des écrivains, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des philosophes. Enfin bref, des gens qui aimaient Senghor et qui ont envoyé leurs livres en les dédicaçant. Et c'est cela qui donnait un peu de la valeur pour les écrivains connus. Donc c'est une bibliothèque assez importante, mais peut-être qu'elle n'a pas la valeur dont on parle.
Justement, en quoi c'est si important pour l'État sénégalais de racheter cette bibliothèque?
Le Sénégal a été porté à l'indépendance par Léopold Sédar Senghor. Et Senghor n'est pas un économiste, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un scientifique. C'est un poète qui a porté le Sénégal à l'indépendance. Et le Sénégal n'est connu que par sa culture. Et son rayonnement international par la culture. Et non par l'économie, le pétrole ou le gaz. Et c'est ce même poète dont la bibliothèque est en vente qui a créé une république et au-delà d'une république qui a créé une nation. Donc Senghor lui-même est un patrimoine. Sa bibliothèque est un patrimoine. Et nous avons besoin de ce patrimoine dans notre pays comme en Afrique. Le retour du patrimoine africain, vous en faites le suivi peut-être. Nous sommes en train, Emmanuel Macron, le président français, était en train de voir comment rapatrier justement tout ce patrimoine. La vérité, c'est qu'il y a une mafia bien organisée en France qui est en train de piller le patrimoine de Senghor. Et il faut faire face à cette mafia. Il faut la démasquer. Et c'est cette mafia qui met cette bibliothèque en vente. Alors, le Sénégal a pensé que par dignité, mais que par honneur, nous devrions récupérer ce patrimoine de Senghor, ce patrimoine du Sénégal, et le ramener au Sénégal. Voilà pourquoi M. le Président de la République a répondu à mon appel, comme à l'appel de tous les Sénégalais, pour demander à notre ambassadeur à Paris d'aller faire annuler cette vente aux enchères à Caen, en France, et d'acheter la bibliothèque et de la ramener au Sénégal. Nous le remercions d'avoir fait ce geste, parce que ce gouvernement vient d'arriver. Ils sont en train de s'organiser. Et je me réjouis que le premier acte fort, acte national, acte patriotique, acte international, c'est d'abord la culture, mais c'est d'abord Senghor.
Vous en parliez tout à l'heure, plusieurs universitaires du Sénégal avaient pressé dans un communiqué leur gouvernement de se porter acquéreur des ouvrages afin de préserver et valoriser ce patrimoine-là. Qu'est-ce qu'il faut entendre par préserver et valoriser ce patrimoine?
Préserver et valoriser ce patrimoine, mais c'est mettre ce patrimoine au service de la jeunesse sénégalaise qui ne connaît pas Senghor. La jeunesse africaine elle ne connaît pas Kourma, ne connaît pas Senghor, ne connaît pas Cheikh Anta Diop et d'autres encore. Donc, il faut commencer par l'école. Si nous ne commençons par l'école, nous allons échouer. Il faut que la nouvelle génération et que les générations à venir découvrent le patrimoine sénégalais, le patrimoine africain. Et cette bibliothèque est un patrimoine. Donc, nous allons la mettre à la disposition des lycées et collèges, à des universitaires, des professeurs, mais des étudiants, pour qu'ils découvrent qui est Senghor. Donc c'est capital. Je crois que nous n'allons jamais nous développer si nous ne commençons pas par la culture. C'est important.
Amadou Lamine Sall, poète et écrivain sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Après son dernier film The Way sur le drame de l'immigration irrégulière au sein des familles africaines, la cinéaste engagée guinéenne Isabelle Kolkolloua a réalisé un court-métrage sur la violence familiale Cœur d'enfant qui vient tout juste de sortir. Jointe par Nathalie Barge, elle explique le message de ce film en prélude à son prochain long-métrage sur la place de la femme dans la société.
J'espère, à travers ce film, amener les uns et les autres à prendre leurs responsabilités pendant qu'il est encore temps. La violence est un cycle qui ne peut pas s'arrêter à travers les simples messages de sensibilisation. C'est un cycle qui se transmet de génération en génération.
Qui a encore salé le salon comme ça?
Maman, c'est pas moi, c'est comment?
Viens nettoyer ça.
Où est ta mère?
Elle est aux toilettes.
Bonjour papa.
Bonjour mon fils. Va appeler ta mère. Qu'est-ce qu'elle fait de si important pour nous faire attendre?
On côtoie la violence tous les jours dans des petits détails. Même le comportement des enfants, s'il sera un machiste demain, tu le sauras à travers ces petites actions.
Excuse-moi, je vais faire vite. Papa, je t'avais dit quoi? De faire attention à la sauce là.
Est-ce que c'est à lui de le faire?
Comment avez-vous choisi ces enfants?
L'expression des enfants est la plus pure dans un monde aussi dérangé comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'appel à casting, je les côtoie dans la société et donc je savais qu'ils pouvaient incarner ces personnages et voilà.
Est-ce que vous avez un projet de long métrage ?
Comme long métrage, nous sommes en train de préparer le projet Le silence des ancêtres. Je me pose la question, qui a décidé que telle place était réservée aux femmes et telle autre pour les hommes? Donc nous mettons des protagonistes et des antagonistes dans un environnement très traditionnaliste, très conservateur et qui sont exposés à un conflit qui doit les amener à prendre une décision quant à l'avenir de leur communauté, à savoir est-ce qu'il faut s'ouvrir au modernisme ou est-ce qu'il faut rester enfermé et conserver leurs valeurs. Dans les deux cas, il y a risque pour la communauté de se perdre et de disparaître.
Isabelle Kolkolloa, comment se porte le cinéma féminin en Afrique aujourd'hui?
Je pense que ça commence à aller mieux parce que de plus en plus de femmes s'engagent dans le domaine. La parole se libère. Il y a des festivals exclusivement dédiés aux œuvres féminines. Il y a des collectifs de femmes des métiers du cinéma. Et avec ces petites avancées, je pense que le cinéma féminin en Afrique va prendre son envol et on ne pourra plus nous arrêter.
Selon vous, que faire pour promouvoir le cinéma d'Afrique francophone ?
L'Afrique francophone a compris tardivement l'aspect divertissement, l'aspect industriel du cinéma. L'Afrique francophone est restée sur cet aspect culturel et pour qu'un réalisateur puisse faire une œuvre digne de son nom, il faut aller faire la queue devant les guichets de financement. Alors que dans la partie anglophone, les gars ont compris que le financement participatif est ce qui pourrait faire éclore leur cinéma. Ils cotisent. On comprend que le cinéma, bien sûr, c'est de l'art, mais le cinéma aussi, c'est du divertissement. Et le cinéma, c'est un métier, c'est un secteur économique qui doit pouvoir vivre et faire vivre son nom.
Isabelle Kolkolloa, cinéaste et productrice guinéenne. Le président Joe Biden a reçu lundi le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani au lendemain de l'attaque de masse de l'Iran contre Israël. Cette attaque qui a attisé les craintes d'une guerre régionale plus large est un sujet sur lequel les deux dirigeants se sont concentrés lors de leur réunion dans le bureau ovale. C'est un reportage d'Anita Powell de la VOA depuis la Maison-Blanche, rendu par Nani Talani.
Le dirigeant irakien avait déjà beaucoup de sujets de discussion au programme avec le président Joe Biden avant que l'attaque iranienne contre Israël de ce week-end ne fasse craindre une guerre régionale plus large. Même si les États-Unis qualifient l'attaque aérienne d'échec, le dirigeant irakien a reconnu que le conflit entre Israël et le Hamas est une préoccupation majeure dans la région. Mohamed Shia al-Soudani est le premier ministre irakien.
Nous sommes en fait très désireux de mettre fin à cette guerre qui a coûté la vie à des milliers de civils, des femmes et d'enfants. Et nous encourageons tous les efforts visant à arrêter l'expansion de la zone de conflit.
Les deux pays entretiennent des relations délicates après des décennies d'implication militaire américaine en Irak. Les moyens anti-aériens américains dans le nord de l'Irak ont été utilisés pour abattre certains missiles iraniens. Joe Biden a affirmé que l'Irak, un adversaire de longue date de l'Iran, avait un rôle à jouer dans le maintien de la paix.
En termes simples, notre partenariat est essentiel pour nos nations, pour le Moyen-Orient et je crois pour le monde.
Plus tôt lundi, l'adjoint d'Al-Soudani a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Tous les deux ont salué la coopération régionale qui a déjoué l'attaque et ont appelé à la désescalade. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain.
And I think what this weekend demonstrated is that Israel...
Je pense que ce week-end a démontré qu'Israël n'avait pas à se défendre seul lorsqu'il est victime d'une agression, d'une attaque et qu'il n'a pas à le faire. Dans les 36 heures qui ont suivi, nous avons coordonné une réponse diplomatique afin d'éviter une escalade. La force et la sagesse doivent être envoyées au même côté, les différentes faces d'une même pièce.
Mohamed Ali Tamim est le vice-premier ministre irakien.
Nous appelons toutes les parties à la retenue et au respect des règles ainsi que des normes internationales que nous avons établies. Nous espérons que les sessions qui marqueront le début de notre mise en place jetteront les bases d'un travail efficace au sein de ce comité supérieur afin que nous puissions poursuivre nos relations et nos réunions bilatérales.
Aucune mesure bilatérale majeure n'a été annoncée lundi, mais les analystes estiment qu'il y a des choses que les dirigeants irakiens peuvent faire. Alors qu'Israël réfléchit à sa réponse, les acteurs régionaux ne restent pas les bras croisés. Lundi, le président irakien a rencontré le roi de Jordanie. Selon la cour royale de Jordanie, ils ont évoqué les dangers d'une nouvelle escalade du conflit.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.